Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble donc en ce début de semaine pour nos lectures en liberté. Et je vous propose de débuter avec vous la lecture de ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise, « Les Hauts de Hurlevent » de Emily Brontë. 1801. Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver dans toute l'Angleterre un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et M. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. Quel homme admirable! Il ne se doutait guère de la sympathie que j'ai ressentie pour lui quand j'ai vu ses yeux noirs s'enfoncer avec tant de suspicion dans leurs orbites au moment où j'arrêtais mon cheval, et ses doigts plongés avec une farouche résolution encore plus profondément dans son gilet comme je déclinais mon nom. « Monsieur Heathcliff ?» ai-je dit. Un signe de tête a été sa réponse. « Monsieur Lockwood !» Votre nouveau locataire, monsieur, je me suis donné l'honneur de vous rendre visite aussitôt que possible après mon arrivée pour vous exprimer l'espoir de ne pas vous avoir gêné par mon insistance à vouloir occuper Thrushcross Grange. J'ai entendu dire hier que vous aviez quelques idées. Thrushcross Grange m'appartient, monsieur, m'a-t-il interrompu en regimbant. « Je ne me laisse gêner par personne quand j'ai le moyen de m'y opposer. Entrez. » Cette « entrée » était prononcée les dents serrées et exprimait le sentiment « aller au diable ». La barrière même sur laquelle il s'appuyait ne décelait aucun mouvement qui s'accordât avec les paroles. Je crois que cette circonstance m'a déterminé à accepter l'invitation. Je m'intéressais à un homme dont la réserve semblait encore plus exagérée que la mienne. Quand il a vu le poitrail de mon cheval pousser tranquillement la barrière, il a sorti la main de sa poche pour enlever la chaîne et m'a précédé de mauvaise grâce sur la chaussée. Comme nous entrions dans la cour, il a crié « Joseph !» « Prenez le cheval de M. Lockwood et montez du vin. » Voilà toute la gent domestique, je suppose. Telle était la réflexion que me suggérait cet ordre composite. Il n'est pas surprenant que l'herbe croisse entre les dalles et les bestiaux sont sans doute seuls à tailler les haies. Joseph est un homme d'un certain âge, ou pour mieux dire âgé. Très âgé peut-être, bien que robuste et vigoureux. « Le Seigneur nous assiste !» marmottait-il en aparté, d'un ton de mécontentement bourru pendant qu'il me débarrassait de mon cheval. Il me dévisageait en même temps d'un air si rébarbatif que j'ai charitablement conjecturé qu'il devait avoir besoin de l'assistance divine pour digérer son dîner et que sa pieuse exclamation ne se rapportait pas à mon arrivée inopinée. Les Hauts de Hurlevent. Tel est le nom de l'habitation de M. Heathcliff. Wuthering Heights. Wuthering est un provincialisme qui rend d'une façon expressive le tumulte de l'atmosphère auquel sa situation expose cette demeure en temps d'ouragan. Certes, on doit avoir là-haut un air pur et salubre en toute saison. La force avec laquelle le vent du nord souffle par-dessus la crête se devine à l'inclinaison excessive de quelques sapins rabougris plantés à l'extrémité de la maison et à une rangée de maigres épines qui toutes étendent leurs rameaux du même côté, comme si elles imploraient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a eu la précaution de bâtir solidement. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie. Avant de franchir le seuil, je me suis arrêté pour admirer une quantité de sculptures grotesques prodiguées sur la façade, spécialement autour de la porte principale. Au-dessus de celle-ci et au milieu d'une nuée de griffons délabrés et de bambins éhontés, j'ai découvert la date, 1500. Et le nom, Arton Hirnschau. J'aurais bien fait quelques commentaires et demandé au révêche propriétaire une histoire succincte du domaine, mais son attitude à la porte semblait exiger de moi une entrée rapide ou un départ définitif, et je ne voulais pas aggraver son impatience avant d'avoir inspecté l'intérieur. Une marche nous a conduits dans la salle de famille, sans aucun couloir ou corridor d'entrée. Cette salle est ce qu'on appelle ici la maison par excellence. Elle sert en général à la fois de cuisine et de pièce de réception. Mais je crois qu'à Hurlevent, la cuisine a dû battre en retraite dans une autre partie du bâtiment, car j'ai perçu au loin dans l'intérieur un babis de langue et un cliquetis d'ustensiles culinaires. Puis je n'ai remarqué près de la spacieuse cheminée aucun instrument pour faire rôtir ou bouillir, ni pour faire cuire le pain, non plus qu'aucun reflet de casserole de cuivre ou de passoire de fer blanc le long des murs. À une extrémité, il est vrai, la lumière et la chaleur réverbéraient magnifiquement sur ces rangées d'immenses plats d'étain entremêlés de cruches et de pots d'argent, s'élevant les uns au-dessus des autres sur un grand buffet de chêne jusqu'au plafond. Ce dernier est apparent. Son anatomie entière s'offre à l'œil inquisiteur, sauf à un endroit, où elle est masquée par un cadre de bois chargé de gâteaux d'avoine et d'une grappe de cuisseaux de bœufs, de gigots et de jambons. Au-dessus de la cheminée sont accrochés quelques mauvais vieux fusils et une paire de pistolets d'arçon. En guise d'ornement, trois boîtes à thé décorées de couleurs voyantes sont disposées sur le rebord. Le sol est de pierre blanche polie, les chaises à haut dossier de formes anciennes peintes en vert. Une ou deux plus massives et noires se devinaient dans l'ombre. À l'abri d'une voûte que forme le buffet reposait une grosse chienne jaunâtre de l'espèce pointère, entourée d'une nichée de petits qui piaillaient. D'autres chiens occupaient d'autres recoins. L'appartement et l'ameublement n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils eussent appartenu à un brave fermier du Nord à l'air têtu, aux membres vigoureux mis en valeur par une culotte et des guêtres. Vous rencontrerez ce personnage assis dans son fauteuil, un pot de bière mousseuse devant lui sur une table ronde, au cours d'une tournée quelconque de 5 ou 6 000 dans cette région montagneuse, pourvu que vous la fassiez à l'heure convenable après le dîner. Mais M. Heathcliff présente un singulier contraste avec sa demeure et son genre de vie. Il a le physique d'un bohémien au teint basané, le vêtement et les manières d'un gentleman, tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards, un peu négligés dans sa mise peut-être, mais cette négligence ne lui messied pas parce qu'il se tient droit et que sa tournure est élégante. L'aspect plutôt morose. D'aucuns pourraient le suspecter d'un certain orgueil de mauvais ton. Une voix intérieure me dit qu'il n'y a chez lui rien de semblable. Je sais, par instinct, que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments. pour les manifestations d'amabilité réciproque. Il aimera comme il haïra, sans en rien laisser paraître. Il regardera comme une sorte d'impertinence l'amour ou la haine qu'il recevra en retour. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop libéralement mes propres attributs. Monsieur Heathcliff peut avoir, pour retenir sa main quand il rencontre quelqu'un qui ne demande qu'à lui tendre la sienne, des raisons entièrement différentes de celles qui me déterminent. Espérons que ma constitution m'est presque spéciale. Ma chère mère avait l'habitude de dire que je n'aurais jamais un foyer confortable, et pas plus tard que l'été dernier, j'ai montré que j'étais parfaitement indigne d'en avoir un. Je jouissais d'un mois de beau temps au bord de la mer quand je fis connaissance de la plus fascinante des créatures, une vraie déesse à mes yeux tant qu'elle ne parut pas me remarquer. Je ne lui dis jamais mon amour en paroles. Pourtant, si les regards ont eu un langage, la plus simple d'esprit aurait pu deviner que j'étais amoureux fou. Elle me comprit enfin et à son tour me lança un regard, le plus doux de tous les regards imaginables. Que fis-je alors? Je l'avoue à ma honte. Je me repliai glacialement sur moi-même, comme un colimaçon. À chaque regard, je me refroidissais et rentrais un peu plus avant dans ma coquille, si bien qu'à la fin, la pauvre innocente se mit à douter de ses propres sens et, accablée de confusion à la pensée de son erreur supposée, persuada sa maman de décamper. Cette curieuse tournure d'esprit m'a valu une réputation de cruauté intentionnelle qui est bien injustifiée, mais moi seul peux en juger. J'ai pris un siège au coin du feu opposé à celui vers lequel mon propriétaire se dirigeait, et j'ai occupé un moment de silence à essayer de caresser la chienne qui avait quitté ses petits et rôdait comme une louve autour de mes mollets. La lèvre retroussée, ses dents blanches humides prêtes à mordre. Ma caresse a provoqué un long grognement guttural. Je vous conseille de laisser la chienne tranquille, a grogné Heathcliff, en arrêtant d'un coup de pied les démonstrations plus dangereuses. Elle n'est pas habituée à être gâtée. Elle n'a pas été élevée pour l'agrément. Puis, se dirigeant vers une porte latérale, il a appelé de nouveau « Joseph !» Joseph a grommelé indistinctement dans les profondeurs de la cave, mais sans donner aucun signe de réapparition. De sorte que son maître a plongé pour l'aller chercher, me laissant vis-à-vis de la scélérate de chienne et d'une paire d'affreux chiens de berger à poils longs qui exerçaient avec elle une surveillance jalouse sur tous mes mouvements. Peu désireux de prendre contact avec leur croc, je suis resté assis sans bouger. Mais pensant qu'ils me comprendraient sans doute par des insultes tacites, je me suis malheureusement permis de cligner de l'œil et de faire des grimaces au trio, et l'une de mes expressions de physionomie a tellement irrité madame qu'elle est entrée soudain en furie et a sauté sur mes genoux. Je l'ai repoussée et me suis hâté d'interposer la table entre nous deux. Cette manœuvre a mis en émoi toute la meute. Une demi-douzaine de démons à quatre pattes, de taille et d'âge variés, sont sortis de leur repère caché et se sont rassemblés. J'ai senti que mes talons et les basques de mon habit étaient les buts particuliers de l'assaut, et tenant de mon mieux les plus forts des combattants en respect avec le tisonnier, je me suis vu contraint de demander tout haut l'assistance de quelqu'un de la maison pour rétablir la paix.
Stormy weather since my man and I together gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So if he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy since my man and I together, keeps raining all the time, keeps raining all. Every hope I had, this pittering, pattering, beating and spattering, driving me mad. Love, 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 love. This misery will be the end of me. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Raining all the time, the time keeps raining all the
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les Hauts de Hurlevent. Monsieur Heathcliff et son domestique ont gravi les marches de la cave avec un flegme mortifiant. Je ne crois pas qu'ils aient mis une seconde de moins qu'à l'accoutumée, bien qu'autour de la cheminée une tempête d'aboiements et de clapissements fît rage. Par bonheur, un habitant de la cuisine a montré plus de hâte, une forte gaillarde, la robe retroussée, les bras nus, les joues rougies par le feu, s'est précipité au milieu de nous en brandissant une poêle à frire. Elle a manié cette arme, ainsi que sa langue, avec tant d'à-propos que la tourmente s'est apaisée comme par enchantement et qu'elle demeurait seule haletante comme la mer après un ouragan quand son maître est entré en scène. Que diable se passe-t-il ? A-t-il demandé en me regardant d'un air que j'ai eu quelque peine à supporter après ce traitement inhospitalier. Que diable, en effet, ai-je grommelé. Le troupeau de pourceaux possédés du démon ne pouvait avoir en lui de pires esprits que n'en décèlent vos animaux que voilà, monsieur. Autant vaudrait laisser un étranger avec une portée de tigre. Et il n'inquiète pas les gens qui ne touchent à rien, a-t-il remarqué en posant la bouteille devant moi et remettant la table en place. Les chiens font bien d'être vigilants. Un verre de vin ? Non, merci. Pas été mordu ? Si je l'eusse été, j'aurais laissé mon empreinte sur le mordeur. Un sourire grimaçant a détendu les traits de Heathcliff. Allons, allons, vous êtes troublé, monsieur Lockwood. Voyons, prenez un peu de vin. Les hôtes sont tellement rares dans cette maison que mes chiens et moi, je les reconnais volontiers, ne savons guère les recevoir. À votre santé, monsieur. Je me suis incliné en rendant la politesse. Je commençais à m'apercevoir qu'il serait absurde de bouder à cause de la mauvaise conduite d'une bande de méchants chiens. En outre, je n'avais pas envie de continuer à fournir à cet individu de l'amusement à mes dépens, car c'était le tour que prenait son humeur. Lui, mû probablement par la prudente considération que ce serait folie d'offenser un bon locataire, a atténué un peu le laconisme de son style, d'où les pronoms et les verbes auxiliaires étaient exclus, et a entrepris un sujet qu'il supposait devoir m'intéresser, un discours sur les avantages et les inconvénients de mon lieu de retraite actuel. Je l'ai trouvé très informé des questions que nous avons abordées. Et avant de rentrer chez moi, je me suis enhardi à proposer de renouveler ma visite demain. Il ne désirait évidemment pas voir mon intrusion se répéter. Mais j'irai, néanmoins. Je m'étonne de me sentir si sociable en comparaison de lui. Hier, l'après-midi s'annonçait brumeuse et froide. J'avais envie de la passer au coin du feu dans mon cabinet de travail au lieu de patauger dans la bruyère et dans la boue jusqu'à Hurlevent. Après le dîner, je remontais. Notez bien, je dîne entre midi et une heure. La femme de charge, respectable matrone que j'ai prise avec la maison comme un immeuble par destination, n'a pas pu ou n'a pas voulu comprendre la requête que je lui avais adressée pour être servie à 5 heures. Je gravis donc l'escalier dans cette intention paresseuse. Mais en entrant dans la pièce, je vis une servante à genoux, entourée de brosses et de seaux à charbon. Elle soulevait une poussée infernale en éteignant les flammes sous des monceaux de cendres. Ce spectacle me fit aussitôt reculer. Je pris mon chapeau et après une course de 4 000, j'arrivai à la porte du jardin de Heathcliff juste à temps pour échapper aux premiers flocons d'une averse de neige. Sur ce sommet découvert, la terre était durcie par une gelée noire, et le vent me fit frissonner jusqu'à la moelle. Ne parvenant pas à enlever la chaîne, je sautai par-dessus la barrière, montai en courant la chaussée d'allées bordée çà et là de groseilliers, et frappai en vain pour me faire admettre tant et si bien que les jointures des doigts me cuisaient et que les chiens se mirent à hurler. « Misérable habitant de cette demeure » proférai-je mentalement. « Vous mériteriez, pour votre grossière inhospitalier, de rester à perpétuité isolé de vos semblables. Vous pourriez au moins ne pas tenir vos portes barricadées en plein jour. Peu importe, j'entrerai. » Cette résolution prise, je saisis le hoquet et le secouai violemment. La tête et la face vinaigrées de Joseph se montrèrent à une lucarne ronde de la grange. « Et qu'est-ce que vous voulez ? » cria-t-il. « Le maître a descendu au parc à moutons. Faites le tour, pas le bout de la grange, si c'est que vous voulez lui parler. » « N'y a-t-il personne à l'intérieur pour ouvrir la porte ? » lui criai-je en réponse. n'y a que personne que la maîtresse, et n'ouvrira point. Quand même vous feriez votre vacarme infernal jusqu'à minuit. Pourquoi ne pourriez-vous lui dire qui je suis, hein, Joseph ?
Moi, que nenni, je voulus en point m'en mêler, grommela la tête qui disparut.
La neige commençait à tomber dru. Je saisissais la poignée du loquet pour faire un nouvel essai, quand un jeune homme sans veste et portant une fourche sur l'épaule apparut dans la cour derrière la maison. Il me héla en me faisant signe de le suivre et après avoir traversé une buanderie et une cour pavée contenant un magasin à charbon, une pompe et un pigeonnier, nous arrivâmes enfin dans la grande pièce chaude et gaie où j'avais déjà été reçu. Elle resplendissait délicieusement à la lueur d'un immense feu de charbon. Près de la table, mise pour un plantureux repas du soir, je fus charmé d'apercevoir la maîtresse, personne dont je n'avais pas encore soupçonné l'existence. Je saluai et j'attendis, pensant qu'elle me prierait de prendre un siège. Elle me regarda en s'appuyant sur le dossier de sa chaise, mais resta immobile et muette.
Vilain temps, remarquai-je. Je crains, Madame Heathcliff, que la porte n'ait à se ressentir des conséquences du service un peu relâché de vos domestiques. J'ai eu de la peine à me faire entendre d'eux.
Elle ne desserrait pas les lèvres. J'ouvris de grands yeux. Elle ouvrit de grands yeux aussi, ou plutôt, elle fixa sur moi un regard froid, indifférent, excessivement embarrassant et désagréable.
« Asseyez-vous, » dit le jeune homme d'un ton bourru, « il va bientôt rentrer. »
J'obéis, je toussai, j'appelai la gredine de Junon qui daigna à cette seconde entrevue remuer l'extrémité de la queue en signe de reconnaissance.
« Un bien bel animal, » repris-je.
« Avez-vous l'intention de vous séparer de ces petits, madame ?»«
Ben, ils ne sont pas à moi, » dit l'aimable hôtesse, d'un ton encore moins engageant que celui de Heathcliff lui-même aurait pu mettre à cette réponse.
« Ah, vos favoris sont sans doute parmi ceux-ci, » continuai-je, en me tournant vers un coussin dans l'ombre couvert de quelque chose qui ressemblait à des chats.
« Étrange choix de favoris !» observa-t-elle avec mépris.
Pas de chance, c'était un tas de lapins morts. Je toussai une fois de plus et je m'approchai de l'âtre, renouvelant mes commentaires sur le triste temps de cette soirée.
« Vous n'auriez pas dû sortir, » dit-elle, en se levant pour prendre sur la cheminée deux des boîtes à thé peintes.
Jusqu'alors, elle avait été abritée de la lumière. Maintenant, je distinguais nettement sa silhouette et son visage. Elle était élancée, en apparence à peine sortie de l'adolescence, admirablement faite, et avec la plus exquise petite figure que j'ai jamais eu le plaisir de contempler, des traits fins, très réguliers, des boucles blondes, ou plutôt dorées, qui pendaient librement sur son cou délicat, et des yeux qui eussent été irrésistibles si l'expression en eût été agréable. Heureusement pour mon cœur sensible, le seul sentiment qu'il révélait tenait le milieu entre le dédain et une sorte de désespoir, qu'on était étrangement surpris d'y découvrir. Les boîtes étaient presque hors de sa portée. Je fis un mouvement pour l'aider. Elle se tourna vers moi du même air qu'aurait un avare si quelqu'un voulait essayer de l'aider à compter son or.
« Je n'ai pas besoin de votre assistance, » dit-elle sèchement. « Je peux les atteindre toute seule. »
« Je vous demande pardon, » me hâtai-je de répliquer.
« Vous a-t-on invité à prendre le thé ?» demanda-t-elle en attachant un tablier sur sa robe noire très propre. Elle balançait une cuillerée de thé au-dessus de la théière.
« J'en prendrai une tasse avec plaisir. Vous a-t-on invité ? » répéta-t-elle.
« Non, » dis-je en souriant à demi, «
Mais vous êtes tout indiqué pour le faire. » Elle rejeta le thé, la cuillère et tout le reste et se rassit sur sa chaise avec un mouvement de dépit, le front plissé, la lèvre inférieure rouge en avant comme celle d'un enfant prêt à pleurer. Cependant, le jeune homme avait jeté sur son dos une veste extrêmement usée. Debout devant le feu, il me regardait du coin de l'œil, d'une mine à jurer qu'il y avait entre nous deux une haine mortelle inassouvie. Je commençais à me demander si c'était ou non un domestique. Son costume et son langage étaient grossiers, tout à fait dépourvus de la supériorité qu'indiquaient ceux de Monsieur et Madame Heathcliff. Ses épaisses boucles brunes étaient négligées et hirsutes. Sa moustache empiétait sur ses joues à la manière de celle d'un ours. Ses mains étaient hâlées comme celles d'un simple laboureur. Pourtant, son attitude était dégagée, presque hautaine. Et il ne montrait pas l'assiduité d'un domestique à servir la maîtresse de maison. En l'absence de preuves certaines de sa condition, je jugeais préférable de ne pas prêter attention à sa conduite bizarre. Et au bout de 5 minutes, l'entrée de Heathcliff apporta, dans une certaine mesure, un soulagement à ma situation embarrassée. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.